Radio G. www.radio-g.fr.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 101.5 FM de Radio G. Vous l'entendez, il y a quelques petits soucis techniques pour l'instant du côté de la régie et pour cause, donc cette émission de Génération Sport va se faire sans Max ni Cédric. Et oui, la semaine dernière et la semaine d'avant, Max était aux abonnés absents. Et cette semaine, c'est également Cédric qui n'est pas là. Alors, il y a eu un empêchement de dernière minute. Hein. On lui fait le coucou s'il nous écoute. Et puis, Max est qu'à contact. Donc, évidemment, il ne peut pas venir donc, sur cette émission de Génération Sport. Voilà, la semaine dernière, il n'y aura pas du tout d'émission puisque c'est l'événement Les Inouïs qui prendra l'antenne sur Radio G. Et on se retrouvera, nous, le 2 février prochain, si je ne dis pas de bêtises, pour une émission d'Allangeville. Et on recevra Amandine Brossier avec notre émission en partenariat donc avec la Dalle Angevine. Cette émission que je vais animer, je ne la fais pas totalement tout seul puisque j'ai un invité, c'est Rosaire Malanga, joueur de l'Étoile Angers Basket. Salut Rosaire.
Salut, salut.
Donc on parlera avec toi en deuxième partie d'émission de cette saison de l'EAB qui se passe plutôt bien. On parlera également de ta blessure hein, qui t'a un peu éloigné de tes terrains pour l'instant. Mais avant ça, on va revenir sur le 1-2 et on va revenir sur toute l'actualité sportive locale et internationale. Tout d'abord, on va commencer avec le basket justement et l'EAB qui a gagné un succès précieux à Tarbes-Lourdes 83-80 du côté de l'UFAB. C'était une défaite à domicile contre Saint-Amand 61-58, une défaite hein, qui fait du mal aux Angevines qui restent quand même dans un bon ratio de 6 victoires à 6 défaites, notamment avec une très bonne performance hein, sur ce match de l'américaine Alexis Peterson avec 29 points et surtout 22 d'évaluation. C'était une grosse performance hein, pour l'Angevine qui a été élu d'ailleurs MVP de la rencontre. Et puis au niveau de Cholet Basket, Cholet s'est relancé en Betclic Elite avec cette victoire au Portel 85-69. Donc voilà, le Cholet qui se relance petit à petit. Et puis on va changer de sport, on va aller du côté du handball. Le SCO qui pour l'instant donc ne joue pas en championnat puisque c'est actuellement la trêve internationale avec cette Euro 2022 de handball hein, qui a lieu en ce moment même en Hongrie et en Slovénie. Et puis bah, voilà, du côté du SCO handball, on essaie de s'entretenir pour les joueurs qui ne sont pas encore appelés en sélection. Donc potentiellement il y a déjà eu en tout cas des amicaux qui ont été organisés. Il y en aura d'autres encore une fois. Il y a eu une défaite donc récemment 41-34 contre Chartres. Et surtout, il y a eu une grosse annonce qui a été faite la semaine dernière. On sait désormais l'identité de celui qui va entraîner le SCO handball pour la fin de saison. C'est Denis Tristan qui va donc former un duo avec Issam Tej, qui n'a pas encore sa licence d'entraîneur professionnel et qui va donc pour l'instant donc former un petit binôme avec Denis Tristan qui lui a déjà par le passé coaché l'équipe professionnelle d'Angers-Noyant, donc l'ancien nom en plus d'Angesco. Donc voilà, c'est un retour de Denis Tristan à la tête du club angevin de handball et il sera donc bien accompagné par Issam Tej. Et puis on va parler maintenant de l'autre club du SCO, c'est le SCO Football avec ce week-end. C'était le retour sur les terrains pour les hommes de Gérald Batligle et très rapidement ça s'est mal passé au début avec ce carton rouge reçu par Souleymane Doumbia très rapidement après 15 minutes de jeu. Et puis malgré ce cette longue période disputée à 10 contre 11, le SCO qui a réussi à arracher le match nul 0-0. Ils auraient même pu, en fin de match, arracher la victoire avec une occasion de Jimmy Cabot. Mais en tout cas, voilà, 0-0 entre l'Orientais et Angevin. À noter que Nabil Bentaleb a fait ses débuts sous le maillot SCOiste, donc lors de cette rencontre. Au niveau, on va passer maintenant donc au hockey sur glace avec les Ducs d'Angers. Mardi dernier, les Ducs jouaient contre Amiens et se sont imposés 3-0. Vendredi dernier, ils ont perdu 4-3 contre Gap. Et le jour suivant, donc le samedi, victoire donc 3-1 des Ducs face à Nice. Ce soir, Chamonix se dresse devant eux à la Ice Park à 20h30. On vous tiendra peut-être au courant de la suite des événements. Et puis surtout, un rappel également, une grosse information, puisque la finale de la Coupe de France a officiellement été délocalisée à Cergy-Pontoise en vue de tout ce qui s'est passé au niveau Covid. La jauge de 2000 spectateurs, donc, qui est beaucoup plus adaptée à la Arena Ice de Cergy-Pontoise que, évidemment, à l'Accor Hotel Arena de Bercy. On va passer aux actualités internationales maintenant. On va commencer avec le football et la Ligue 1. La 21e journée a débuté ce vendredi par la victoire de Nice à domicile contre Nantes 2-1. Les Niçois qui sont toujours dauphins du PSG. Les Parisiens victorieux de Brest samedi soir 2-0. Juste avant, Lens avait arraché la victoire à Saint-Etienne 2-1 avec la magnifique réalisation de Fofana dans le temps additionnel. Le lendemain, le Stade Rennais a étrié les Girondins de Bordeaux 6-0. Dans l'après-midi, Monaco a battu Clermont 4-0. Strasbourg a renversé Montpellier 3-1 et Lyon s'est imposé à 3-1-0. Pour le match de dimanche soir, Lille se déplaçait à Marseille et a dû arracher le match nul 1-1 après avoir évolué à 10 contre 11 pendant près d'une heure. On va enchaîner avec le basket et la NBA. On va faire un petit point sur le classement après voilà, une grosse quarantaine de matchs joués pour la plupart des équipes. Au niveau de la conférence Est, c'est Chicago qui domine devant Miami et Brooklyn. Et puis du côté de l'Ouest, c'est Phoenix qui domine devant Golden State et Memphis. Cette nuit, il y a eu un gros match, une grosse affiche entre l'Utah Jazz et les Los Angeles Lakers qui recevaient l'équipe de Rudy Gobert. C'était un gros match et au final c'est donc les joueurs de Los Angeles qui l'ont emporté 101-95 avec notamment une très belle action que vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. C'est cet énorme tomard, si on peut dire ainsi, donc de Russell Westbrook sur Rudy Gobert hein, qui n'a pu que regarder ce gros dunk de Russell Westbrook. Et du coup voilà, ce sont finalement donc les Lakers qui l'ont emporté. On va parler un peu de tennis maintenant avec l'Open d'Australie qui a débuté, et il a débuté sans Novak Djokovic qui a officiellement été exclu d'Australie après ces multiples rebondissements dans cette affaire de visa qui avait été annulée une première fois, puis désannulée, puis encore une fois annulée. Là pour le coup, il a été notamment exclu du pays et il ne pourra pas jouer à cette Open d'Australie puisqu'il évidemment il n'est pas vacciné. Voilà, évidemment cette annulation de Djokovic n'est pas sans conséquences. Ça laisse pas mal de place dans le tableau des hommes puisque c'était notamment le tenant en titre. Au niveau des résultats, puisque l'Open d'Australie a commencé dès hier, on peut notamment parler de ce qui s'est passé aujourd'hui avec notamment Rinderknecht, le français qui a battu le local Poppy Rinne au terme d'un match assez fou de 5-7 dans lequel le français devait faire face au public australien. Et voilà, le français qui s'est imposé en 5-7, 7-5, 4-6, 6-2, 3-6, 6-3. Du côté des autres français qui sont passés, notamment Richard Gasquet a battu son compatriote Hugo Humbert. Mon fils et père également se sont qualifiés pour le prochain tour et on suivra ça évidemment de près dans les prochaines semaines. Et puis un petit mot de handball puisque les Bleus se sont qualifiés hier soir pour le prochain tour, le tour principal, en battant notamment la Serbie 29-25. Les Bleus qui avaient déjà battu la Croatie en premier match, et puis plus facilement également l'Ukraine, c'était samedi dernier si je dis pas de bêtises. Voilà donc les Bleus qui terminent cette première phase, cette première poule avec 3 victoires en 3 matchs. C'était en tout cas quelque chose évidemment de rassurant pour cette équipe de France qui est championne olympique, on le rappelle. Et voilà, ça se déroulera, le groupe principal, ça se déroulera à partir de jeudi. Donc on suivra ça de près ici à Génération Sport. À noter que dans l'effectif des Bleus, Karl Konan était positif au Covid et il sera remplacé par Quentin Monnard. Donc voilà, c'est une info évidemment de dernière minute. Voilà, c'était tout pour cette chronique d'actualité sportive, hein, ce fameux 1-2 que j'ai maintenant l'habitude de faire un peu seul. On va tout de suite passer à la pause musicale et on va s'écouter un featuring entre Angèle et Damso. On va s'écouter tout de suite le titre Démon. C'est parti, on se retrouve juste après.
Enfin ça allait, confiant de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et pas en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. Quand j'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comme maintenant j'en ai fait, j'ai plus mon nom. C'est la magie ou pas, tout est
pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus, c'est pour rappeur. Non, pour moi depuis que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, j'prends un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game, mais j'maîtrise les 4 éléments, j'rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer tes démons.
Comme un ange en enfer, j'ai plus mon nom. C'est la magie ou pas, c'est le temps. Comment faire pour tuer mes démons? Tuer mes démons. Comment faire pour tuer mes démons?
De retour sur le 101.5 FM de Radio G. C'était donc le titre Démon avec donc Angèle et Damso. On est donc de retour dans Génération Sport pour la suite de l'émission. Je suis accompagné de Roser Malonga, joueur de l'EAB tout simplement. J'ai un petit peu bugué. Voilà, donc de l'Étoile Angers Basket qui est actuellement leader de sa poule de National 1. Donc rebonjour Roser.
Salut, salut.
Tu es né, je vais te faire un peu, enfin je vais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Tu es né à Melun le 28 septembre 1995, si c'est bien ça. Tu as 26 ans, tu es meneur, tu es formé à Boulogne-sur-Mer, c'est ça aussi?
Ouais, c'est clair.
Ouais. Et puis donc tu es arrivé à l'EAB à l'été 2021, alors tu affichais une moyenne de 12,2 points par match avant de se blesser, donc c'était début novembre. Et donc tu étais donc pendant encore longtemps en rééducation pour revenir sur le terrain. Un retour, on va en parler tout à l'heure, hein, mais qui arrive très bientôt. Mais avant ça, donc on va essayer de revenir un peu en arrière. Comment tu as démarré le basket, par quoi la passion t'est venue?
J'habite dans une petite, pas une petite ville, mais une ville où il y a beaucoup de sport, à Lemay-sur-Seine. Et quand j'étais jeune, j'étais toujours dehors, etc. Ça veut dire qu'en face de chez moi, il y avait un gymnase de basket. Donc du coup, j'allais souvent là-bas. Au début, je regardais. Mais mon grand frère, il faisait déjà du basket. Du coup, j'ai commencé à y aller. Et j'ai commencé très tôt. Hein. Je crois qu'il y avait 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais arrêté.
Et du coup, tu as été formé à Boulogne-sur-Mer. Comment ça s'est passé? Tu as été repéré? Tu étais déjà là-bas ou...
Non, j'avais un ami qui était là-bas. Enfin, un ami via un ami. On est parti voir un ami avec un ami là-bas. Okay. Qui a été en Pro B là-bas, qui joue en Pro B là-bas. Et du coup, je suis parti le voir pendant une semaine. Et il m'a dit, ouais, ce serait cool que tu t'entraînes avec l'équipe jeune, etc. Ils jouent en championnat de France, etc. Et moi, à ce moment-là, je jouais en National 3, je crois, j'avais 16-17 ans. Et du coup, je suis parti là-bas et j'ai fait un essai. Et le coach m'a dit, voilà, je te prends direct. Donc après l'année suivante, je suis parti là-bas en centre de formation et puis voilà.
T'as beaucoup changé de club, quasiment un par an hein, depuis 2015 à peu près. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît de changer de club ou
Pas forcément. Souvent on me qualifie de vagabond parce que j'ai fait tous les coins de la France, on va dire. Mais non, je pense que j'ai sûrement fait ça pour aller le plus haut possible aussi, sûrement. J'ai eu sur peut-être des meilleures opportunités ou sur peut-être aussi des meilleures conditions de travail ou je vais là où le vent me mène quoi.
D'accord. Et du coup, outre le côté sportif, comment tu fais pour t'adapter à changer de vivre? C'est quand même un mode de vie assez particulier. Chaque année, tu changes.
Le truc c'est que en fait vu qu'on est tout le temps au quotidien avec son équipe. Ça veut dire que quand on change de ville, en soi, je me fais pas vraiment beaucoup d'amis dans les villes où je vais.
Okay.
Je reste souvent chez moi, donc je trouve pas ça vraiment difficile. C'est pas très compliqué en soi.
Ouais.
Franchement, ça va.
Au niveau du sportif, parmi tous les clubs parmi lesquels tu as été, c'est quoi ton expérience la plus enrichissante sportivement?
Et je dirais Montbrison.
Montbrison?
J'ai joué en National 2 à Montbrison. Et c'était une année spéciale parce que j'avais joué en National 1 auparavant.
Ouais.
Mais depuis, j'avais pas eu d'opportunité, de réelle opportunité.
Ok.
Et moi, c'était l'année où je voulais prouver à moi-même et aux autres que je pouvais jouer à ce niveau-là. Du coup, je pense que c'était cette année-là.
Ouais, t'as changé ta mentalité à ce moment-là?
J'avais toujours cette mentalité-là, toujours aller de l'avant, de toujours vouloir prouver, de me prouver à moi-même. Mais cette année-là, c'était vraiment spécial parce que j'avais vraiment eu aucun intérêt concret, on va dire. Et du coup, je me suis donné les moyens, j'ai eu des bonnes choses aussi, on arrive en finale de Coupe de France.
Ok.
C'était vraiment cool, une bonne expérience à vivre et voilà.
Ouais, justement, tu as fait 2 années en N2. Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre ces clubs-là en N2?
La première année, c'était. J'étais en National 1 à Chartres.
Okay.
Et de base, je devais re-signer, mais ça ne s'est pas fait. Donc moi, je voulais à tout prix rester en National 1, sauf que je n'avais pas de projet intéressant ou d'offre intéressante. Du coup, j'ai attendu, je me suis dit j'aurais forcément une offre, j'ai attendu 1 mois, 2 mois. Et ensuite, il y avait la date butoir pour signer. Donc du coup je me suis dit bah je vais aller à N2, je vais pas faire une saison blanche. Et du coup je suis allé à N2. Et la deuxième année, je suis resté en N2 parce que la première année en N2 avec mon équipe, j'étais à Gravenchon à ce moment-là, vers Rouen. Enfin, je suis arrivé en cours d'année, mais on n'a pas fait une très bonne saison collectivement. Parce que après, c'était pas un club qui avait des ambitions énormes, mais c'était le maintien, on a réussi à se maintenir.
Ok.
Et voilà.
Et est-ce que ça a été. Comment tu l'as vécu de retomber à un niveau quand même plus inférieur à ce que, auquel normalement tu prétends, on va dire ? Comment tu l'as vécu toi personnellement ?
Au début, c'était dur. Parce que j'avais beaucoup de déceptions. Mais après, ça m'a servi de motivation aussi. Pour plus bosser, pour revenir plus fort. Et puis, c'est ce qui s'est passé. On a fait une bonne saison après en National 2, dans le second club à Montbrison, d'ailleurs. Et puis voilà.
Et d'un point de vue professionnel, du coup, tu n'étais plus en tant que joueur professionnel, si ?
Si, parce que je ne travaillais pas à côté.
Okay.
J'avais des entraînements par jour. Si, c'était quand même structuré quand même.
Et on va revenir maintenant sur ton arrivée à Angers. Comment tu as été approché par le club ?
C'était en mai, ou non, juin, je pense, je dirais. De base, je devais re-signer Andrézieux. Sauf que Angers a contacté mon agent et j'ai eu le discours de mon agent qui m'a dit qu'ils avaient un projet sérieux, que c'était un club sérieux. Moi, j'avais vu qu'ils avaient une grosse équipe, qu'ils n'avaient pas forcément fait une bonne saison la saison précédente. Mais aussi, j'avais eu Stéphane Gauthier au téléphone. Qui joue avec moi cette année-là, avec qui j'ai joué quand j'étais à Boulazac.
D'accord.
Donc, il m'a aussi convaincu, il m'a dit que si tu viendrais ici, ce serait cool, on referait une année ensemble, etc. Et ensuite, j'ai eu le discours du coach, qui était vraiment. Ses valeurs vont avec mes valeurs.
D'accord.
Du coup, on s'entend bien et je pense que je ne regrette pas mon choix d'être venu ici.
Ouais, c'est comme ça que le projet t'a séduit. C'est
exactement.
Des gens que tu connais un petit peu qui t'ont parlé de l'équipe et tout, de la ville.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, est-ce que tu penses que l'EAB peut t'aider à passer ce cap en plus, notamment avec peut-être une montée en Pro B ?
Oui, c'est clair, clairement.
Ça peut t'apporter quelque chose pour ta carrière ?
Clairement. Si je peux monter avec ce club-là en Pro B, je serais très, très heureux. Et avec le coach ici, j'apprends beaucoup. Les gens ici sont cool. Le club est très cool, les bénévoles sont très cool aussi, je m'entends vraiment bien avec tout le monde. C'est un club vraiment chaleureux, quand j'ai été blessé, ils ont été là pour moi.
Ok.
Donc voilà.
On sent qu'il y a une vraie osmose entre les joueurs cette saison. Comment tu as senti l'ambiance quand tu es arrivé, toi, dans le groupe ?
Sans mentir, quand je suis arrivé au début d'année, c'est comme si on se connaissait déjà depuis 2-3 ans.
Ah ouais ?
En gros, directement, on a commencé à rigoler ensemble. On faisait déjà des trucs ensemble. Franchement, c'était naturel.
Ouais, ça se voit en plus un peu sur le terrain, un peu en dehors, que vous êtes tout de suite bien entendu.
Ouais, franchement, clairement. Clairement, même que ce soit sur le terrain ou ailleurs. Sur le terrain, on est beaucoup. Je trouve qu'on est très expressif. Mmh. On montre vraiment qu'on est là les uns pour les autres. Que ce soit dans la défaite ou la victoire. Hein. Mmh. Donc, non, franchement, c'est pas dans toutes les équipes où ça se passe comme ça. Donc
ouais. C'est vrai qu'en plus, le AB, c'est un club qui a eu souvent l'habitude de renouveler ses effectifs parce que là, il y a eu pas mal d'arrivées. Mm-hmm. Et au final, à chaque fois, ça se passe plutôt bien. Et au niveau de ton début de saison, à titre personnel, comment tu pourrais juger ce début de saison ? Il est plutôt satisfaisant ?
Oui, très très satisfaisant, malgré ma blessure. Les gars, ils ont continué à faire le taf. Mmh. Ils ont redoublé d'efforts parce que c'était pas facile, parce qu'il y avait moi et Mohamed qui étaient blessés.
Ouais.
Du coup, ils ont dû compenser par les blessures. Le club a pris deux nouveaux joueurs qui, eux ont fait le job.
Ouais.
Ils font vraiment le job, c'est vraiment des plus-values à l'équipe. Et voilà.
Et au niveau justement de ta blessure, j'aimerais revenir sur cet événement qui est quand même important dans cette saison. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Je crois que c'était un match à Rennes, c'est ça ?
C'était à domicile, ouais, contre Rennes.
Contre Rennes. Apparemment, c'était plutôt une faute assez limite. Mm-hmm. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
J'ai reçu la balle dans l'aile, sur le côté, on va dire, du terrain. Et je suis parti au cercle. Et un défenseur qui est venu. Et il est venu pour contester mon tir, sauf qu'au dernier moment, il s'est tourné. Donc ça veut dire que moi, je suis parti sur son dos et j'ai basculé.
Ah oui.
Et j'étais assez haut, c'est-à-dire que ma tête a basculé et mes deux bras ont tapé le sol, ma tête a tapé le sol.
Ah oui.
Et sur le coup, j'ai senti un choc, mais ça allait parce que j'étais encore chaud.
Ok.
Du coup, je me suis relevé, etc. J'avais deux lancers francs, je les ai tirés. J'ai fini le match, etc. Et après, quand on est monté au VIP, j'ai vu que mon corps a commencé à refroidir et que la douleur était assez importante.
Ouais.
Donc, du coup, le lendemain, j'ai fait des radios, etc. Et on m'a dit que, monsieur, vous avez une fracture du scaphoïde.
Est-ce que fracture du scaphoïde, c'est assez grave, du coup ?
Ouais, franchement, moi, au début, les chirurgiens, etc., ils m'avaient dit que c'était entre 3 et 5 mois.
Ouais.
Quand on me dit ça au début, ça fait peur, tu te dis, parce que c'est long quand même, 3 ou 5 ans.
Bah oui, pour une saison, oui.
Et voilà.
Et au final, au niveau cette blessure, comment ça s'est passé ta rééducation ? En quoi ça a consisté ?
Au début, le coach, il m'a très clairement dit, franchement, rentre chez toi quelques jours, ça okay. va te faire du bien. C'est pas toujours facile après une blessure, etc. Donc je suis rentré, je me suis ressourcé un peu auprès de ma famille, etc. Je suis revenu et j'ai commencé à bosser physiquement. J'ai l'entraînement avec les gars, les encourager, etc. Et puis voilà, j'ai fait que ça pendant un mois et demi, deux mois, parce que j'avais un plâtre au départ. Et quand j'ai enlevé le plâtre, après j'ai commencé à essayer de réutiliser ma main avec des élastiques sur les poignets, etc. Et j'ai bossé comme ça.
Et ouais, du coup, comment t'as gardé le lien avec le groupe ? Tu venais souvent les voir jouer ?
J'allais à chaque entraînement, j'étais là.
Ah, même les entraînements ?
Ouais, chaque entraînement, j'étais là. Les déplacements, quand ils partaient en match, quand c'était assez loin, j'allais pas.
Ouais.
Mais quand c'était, par exemple, à Vitré, c'était, je sais pas si c'est la Bretagne, je sais pas.
Je crois que c'est la Bretagne, ouais.
Ouais, à Vitré, j'y suis allé, on est parti à Poitiers, j'y suis allé, et voilà.
C'est important pour toi de rester avec le groupe, de continuer à être là pour eux.
Ouais, ouais.
Tu n'es pas le seul joueur blessé de l'AB cette saison. Il y a aussi Mohamed Choua, Kevin Lavieille notamment. Est-ce que cette infirmerie qui se remplit, ça pèse un peu, ça a pesé en tout cas sur le moral de l'équipe ?
Ouais.
Un petit peu.
Ouais. Clairement, ouais. Au départ, physiquement, c'était dur parce qu'il devait compenser le surtout sur les postes. Moi, encore, ça allait, je trouve, parce que. On a quand même des joueurs qui peuvent jouer un peu partout.
Ok.
Mais Mohamed, c'était assez compliqué parce que il joue intérieur et son rôle dans l'équipe, il est assez volumineux, je trouve.
Ok.
Donc c'était un peu compliqué. Après, l'EAB a su réagir. Ils ont recruté deux joueurs et ça a comblé les blessures.
Et du coup, cette reprise sur le terrain, toi, elle va arriver prochainement. Tu m'en as dit un peu hors antenne. Du coup, ce serait pour la semaine prochaine, c'est ça ?
Ouais.
T'es impatient de reprendre ?
Ouais, clairement. Clairement, là, j'ai repris l'entraînement. Je vais retrouver. Quand on est sur le côté, c'est toujours différent. Quand on est sur le terrain, on est vraiment dedans. Tu retrouves les sensations, C'est vraiment. C'est cool.
On va passer tout de suite à une petite pause musicale et on se retrouvera juste après donc sur Radio G. On va s'écouter tout de suite le titre de Dinos, Placebo, et on se retrouve juste après.
Un peu de bleu dans mon peu de rouge dans mes yeux. Je pense à toi, à nous deux. Je vais pas bien, je vais juste mieux. Rien de très cartésien. Ma tristesse paraît bien comme ton sourire. Ternis pas de métro parisien. Fermez les yeux sur l'avenue des Champs-Élysées. Les ouvriers devant les pyramides déguisées. Tard le soir, peu d'espoir. Car il ne fait pas très beau. Quand je vais mal, je ne me soigne qu'avec des placebos. Je veux de l'or pour ma mère. Je veux du love pour moi-même. Je veux que tu dormes sur ma peine. Je veux que tu dormes sur ma peine. Je veux de l'or pour ma mère. Je veux du love pour moi-même. Je veux que tu dormes sur ma peine. Je veux que tu dormes sur ma peine. Seul tellement, tellement seul, tellement, tellement seul, tellement, tellement seul, tellement. Je suis tellement seul, tellement, tellement seul, tellement, tellement seul, tellement, tellement seul. Dans mon feu, un peu de rouge dans mes yeux. Je pense à toi, à nous deux. Je vais pas bien, je vais juste mieux. Près du monde aérien, loin du monde valérien. Je me racine carré de 10 000. Pas très bien quand je suis avec toi. J'oublie tout ce qui va mal. J'aimerais tout ouvrir mon cœur en Douala, Lingala. Tard le soir, peu d'espoir. Car il ne fait pas très beau. Quand je vais mal, je ne me soigne qu'avec des placebos. Je veux de l'or pour ma mère. Je veux du love pour moi-même. Je veux que tu dormes sur ma peine. Je veux que tu dormes sur ma peine. Je veux de l'or pour ma mère. Je veux du love pour moi-même. Je veux que tu dormes sur ma peine. Je veux que tu dormes sur ma peine. Seul tellement, tellement seul, tellement, tellement seul, tellement, tellement seul, tellement. Je suis tellement seul, tellement, tellement seul, tellement, tellement seul, tellement, tellement seul.
C'était Dinos sur Radio J avec son titre Placebo. On est de retour pour la suite et fin de l'émission sportive de Radio G Génération Sport. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur www.radio-g.fr. On est de retour donc avec Roser Malonga, meneur à l'Étoile Angers Basket, qui va bientôt refaire son retour sur les terrains de National 1. Justement, on en parlait juste avant la pause musicale. Tu vas donc faire ton retour. Donc, est-ce que c'est le match des Sables qui arrive vendredi ou pas, ou ce sera plus tard?
Je sais pas encore. Je sais pas encore. Ça dépend de comment je reprends le rythme, les sensations que j'ai, comment je me sens, etc.
Ce sera la décision du coach.
Ouais.
Ok. Et du coup, par rapport à ce retour, t'es toujours autant motivé?
Toujours.
À retourner. Est-ce qu'il y a une appréhension ou pas du tout?
Non.
Tu vas te donner à fond.
Ouais, comme d'habitude.
Le AB fait une très bonne saison. Il y a eu un très bon début de saison, avec notamment une très grosse série de victoires. Selon toi, d'un point de vue purement basket, qu'est-ce qui a fait la réussite de l'EAB cette saison?
Je dirais la cohésion, qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Défensivement, on est tous aussi sur la même longueur d'onde, ce qui fait qu'on est très 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 agressif en défense, ce qui fait que ça nous donne beaucoup de possession. Et offensivement, on est assez libre, on a des joueurs vraiment talentueux dans l'équipe. Tous même, on est vraiment très très talentueux, je trouve. Et voilà.
C'est l'un des plus gros effectifs de National 1, le AB aujourd'hui.
Pour moi, c'est le meilleur effectif.
Ah ouais, le meilleur effectif. Ouais.
Pour moi, après, parce que c'est mon équipe, tout ça, oui, c'est pour ça que je dis ça. Mais...
c'est pas objectif, c'est ça.
Ouais.
Mais oui, je pense que oui, c'est une très grosse équipe, parce qu'on avait reçu justement Stéphane Gauthier et Karim Gouhari, mm-hmm. et qui nous disaient pareil, un peu ça, c'est l'une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe Angers, mm-hmm. au niveau de l'effectif. Sur le terrain, est-ce que tu ressens aussi la même alchimie qu'il y a aussi en dehors?
Ouais.
Vous parlez un peu le même basket, quoi.
Franchement, on est, c'est comme je disais tout à l'heure, on est tous sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que si quelqu'un va pas bien, on sera tous là pour lui. Si quelqu'un est chaud, on lui donnera tous les ballons, par exemple. Ou non, c'est vraiment une alchimie spéciale.
Il y a un nouveau coach donc qui est arrivé cette saison à l'EAB, c'est Sylvain Delorme. Qu'est-ce que tu penses de son coaching? Est-ce que c'est ça aussi qui fait la différence aujourd'hui à l'EAB, c'est d'avoir ce coach qui est en plus jeune et qui arrive avec de nouvelles idées?
Moi, je trouve qu'il a vraiment imprégné sa marque de fabrique dans l'équipe. On défend la défense notamment, où il a été très clair au niveau de la défense, au départ, et ça a apporté ses fruits. Offensivement, de toute façon, à l'entraînement, on bosse beaucoup et je pense que son coaching fait qu'on en est là aujourd'hui, qu'on soit premier au classement. Et voilà, je crois que c'est sa première année, je crois, ici. Ouais, c'est sa première année. Et pour l'instant, il a réussi plutôt bien.
Comment tu qualifierais son style de coaching? Tu disais un peu axé sur la défense. Et avec vous, comment il est en termes de management?
Il est beaucoup humain. Il est beaucoup porté sur l'humain. Il est souvent là pour nous quand on se sent pas bien ou des trucs comme ça. Il est à l'écoute de nos corps quand on a des douleurs, etc. Franchement, c'est un très bon coach.
En tout cas, c'est un coach qui a sûrement de l'avenir parce qu'il est encore jeune. Hein. Il s'occupait des jeunes de Cholet Basket notamment. Donc, on va revenir sur la période actuelle que traverse l'EAB. Il y a eu plusieurs défaites. Alors, pas de quoi s'alarmer, hein, mais il y a eu. En tout cas, l'EAB est en train de redescendre un petit peu de son petit nuage du début de saison avec 3 défaites lors des 7 derniers matchs. Ça s'explique comment, ça, justement notamment l'infirmerie, on en parlait tout à l'heure.
L'infirmerie, oui, mais après, on n'a pas d'excuses. Hein.
Ouais.
Je dirais pas qu'ils ont été les défaites qu'on a eues, ils ont pas été meilleurs que nous, mais on a fait des erreurs, ça arrive, ouais. Et voilà.
Tu penses que ça va pas avoir d'incident au classement?
J'espère pas. Je pense pas. Après, on n'a pas beaucoup, on n'a pas perdu contre les équipes du haut de classement, donc ça va.
Ouais, maintenant on va parler cette période du futur, de la seconde phase qui va arriver assez prochainement. Pour toi, l'objectif c'est de garder cette première place ou c'est juste d'assurer le top 5 en étant prudent ou c'est vraiment la première place?
Mon objectif personnel pour l'équipe, je dirais, c'est de continuer à gagner des matchs. Prendre le match après match, pas se concentrer sur la deuxième phase ou quoi que ce soit. On va en prendre les matchs un par un et puis faire le meilleur comme d'habitude.
Et justement, cette seconde phase, comment tu la sens? Est-ce qu'il y a des adversaires que tu crains plus que d'autres ou pas forcément?
Non, du tout. Je crains personne, on craint personne. Et voilà, j'aimerais juste, vu que l'année dernière j'ai Andrézieux, je sais qu'ils sont bien classés là, je pense. Ça serait cool de rejouer contre l'ancienne équipe.
Ça serait cool, ouais. Justement, je me posais une question par rapport au club, l'étendue du club, peut-être le professionnalisme du club. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à Andrézieux? Est-ce que c'est un club peut-être plus familial là-bas? Ou Angers est plus gros peut-être?
Le problème, c'est que je pourrais pas faire réellement de comparaison parce que l'année dernière, il y avait le Covid.
Ouais.
Ça veut dire que les salles étaient vides. Donc. Non,
t'as jamais connu Andrézieux vraiment?
Non.
Et justement, cette période du Covid, donc sans public, c'est une question qu'on pose souvent à nos invités, mais comment toi tu l'as vécu de jouer dans des stades huis clos? C'était un peu relou?
C'était relou, oui. C'était compliqué au départ, parce que nous, on avait le public, etc., ça nous pousse et on a toujours joué avec le public.
Ouais.
Malheureusement, le Covid est arrivé et on doit s'habituer, on doit accepter et jouer avec, et voilà.
Et comment on gère justement cette possibilité d'avoir des matchs reportés dans un groupe? Ça doit être compliqué également.
C'est compliqué dans le sens où on se prépare pour un match et le match il se fait pas. Donc oui, c'est compliqué, mais après, on peut rien y faire. Hein.
Et justement, ce retour au public, aux personnes qui reviennent encourager son équipe, toi, comment tu l'as vécu? C'était quelque chose de super?
Franchement, c'était cool. C'était cool parce que c'était dans un nouvel environnement. Et je m'attendais pas à ce que le public soit réceptif à ce point-là.
Ouais.
Vraiment. Après, les résultats font que aussi, mais c'est vraiment un très bon public qui nous pousse même quand ça va pas et ça aide vraiment. Ça aide vraiment.
Comment tu juges justement ce public en juin par rapport à tout ce que tu as connu dans ta carrière ?
Un très bon public.
Ouais.
Un très très bon public. Très très bon public.
Il y a une belle ambiance en tout cas à Jean-Bois.
Ouais, clairement.
Au niveau de toujours de la suite de la saison, est-ce que tu penses que l'EAB, parce que je te voyais très confiant depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu penses que l'EAB peut aller chercher cette montée en Pro B pour toi?
Pour moi, oui.
Ouais, clairement. Et est-ce que tu penses que l'équipe serait potentiellement prête à évoluer en Pro B dans les futures années?
Oui.
Ouais, carrément. En tout cas, voilà, on suivra évidemment ce qui se passera dans les futures semaines du côté donc de cette phase de National 1. Je pense qu'on a évoqué un peu tout ce qu'on pouvait dire sur l'étoile Angers Basket. Au niveau de ton intégration sur Angers, la ville te plaît globalement ?
Ouais, c'est cool.
C'est une bonne ville ?
Ouais, c'est cool. Il y a du monde en ville, il y a à peu près tous les magasins. Il y a un grand centre commercial, l'Atoll, je crois. Ça s'appelle.
Ouais, c'est ça, ouais, beaucoup.
C'est pas très mal, il y a Nike, etc. Non, franchement, c'est cool.
T'as suivi un peu ou pas la saison de l'UFAB qui est de retour, filles qui est de retour en LFB?
Tu vas voir
un peu des matchs avec l'équipe ou pas?
On les voit assez régulièrement parce que souvent on s'entraîne avant elle ou après elle. Ça veut dire qu'on se croise beaucoup, on discute souvent ensemble. Puis elles sont très cool. Elles font un bon début de saison aussi. On va voir leurs matchs, ils viennent voir nos matchs. Et
ouais, c'est cool.
On les encourage donc qu'ils continuent comme ça.
Ouais, c'est une bonne chose de voir les deux équipes en juin se côtoyer un peu. D'un point de vue plus global, est-ce que tu suis un peu la NBA ou un club NBA? Quel club en NBA?
Un peu tout le monde.
T'as pas de club préféré?
Non, j'ai plus des joueurs que j'aime bien. Que je regarde, mais d'équipe.
Qui comme joueur du coup?
Russell Westbrook, t'en parlais tout à l'heure. Ja Morant.
Du coup, ouais, t'as vu son incroyable poster qu'il a mis à Rudy Gobert.
C'est bien parce qu'il était critiqué là récemment. Là. Du coup, là, ça m'a pesé un peu les tensions. Du coup.
Ouais, depuis Oklahoma, il a fait changer pas mal de clubs.
Ouais.
Et là, c'était en tout cas une grosse action hier. En France, pas forcément d'équipe. Tu regardes pas tellement aussi?
Si, je regarde beaucoup la Pro A, la Betclic Elite,
ouais.
L'Euroleague aussi. Mais en France, je suis beaucoup de l'équipe de Dijon.
Ok.
Parce que j'ai un ami à moi qui joue là-bas.
Tu connais du monde là-bas?
Ouais, ouais. Okay. J'ai un ami à moi qui joue là-bas. Et sinon, c'est tout. Hein.
C'est déjà pas mal. En tout cas, voilà, on va pouvoir bientôt conclure cette émission. On va faire un petit point sur les derniers résultats sportifs d'aujourd'hui, notamment avec la CAN, avec certains groupes qui vont se terminer, notamment avec le groupe B, le groupe du grand favori du Sénégal. Le Sénégal qui a fait une étrange performance, puisque les Sénégalais donc, sont premiers de leur groupe avec 5 points, 2 nuls et 1 victoire. Ils ont marqué un but et ils sont donc premiers de leur groupe. Donc voilà, en tout cas, des Sénégalais très réalistes pour la suite de la compétition. Ils terminent donc devant la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. Donc ils ont fait 0-0 face au Malawi et dans le même temps, le Zimbabwe a battu la Guinée de 2-1. Au niveau de ce soir, actuellement, il y a le Gabon qui est en train de mener face au Maroc. 1-0, but du Clermontois à Levina. Donc voilà, il y a eu une polémique il n'y a pas longtemps autour du Gabon, de Aubameyang, de Lemina, notamment qui ont quitté tous les deux la sélection. Et puis il y a une grosse surprise actuellement donc, dans cette même poule, c'est les Comores qui sont en train de battre le Ghana à la mi-temps. Donc 1-0 pour les Comoriens avec un but de Ben Naboua. Labouane, pardon. Et donc, voilà, les Comores qui sont peut-être en train de créer un bel exploit en se plaçant pour l'instant. Donc, troisième du groupe avec 3 points. D'ailleurs, je passe le bonjour à Fahadi, qui est un grand supporter des Comores. Et donc, ça doit lui faire plaisir, une victoire des fameux Comoriens. Et puis, au niveau des autres résultats, ça joue un petit peu partout en Europe, alors pas en France, mais ça joue notamment en Italie, la Lazio qui s'est qualifiée en Coupe d'Italie face à Udinese. En niveau de l'Espagne, ça joue en championnat avec le Betis Séville qui gagne 3-0 actuellement contre Alaves. Ce soir, il y a notamment Chelsea qui se déplace à Brighton, ou encore notamment la Juventus Turin qui reçoit la Samp de Gênes. Et puis au niveau du basket, on en parlait un peu, il y a l'Euroleague avec un gros duel français entre l'ASVEL et Monaco. Actuellement, Monaco mène à la mi-temps 51-41 et le match se déroule du côté de Villeurbanne. On peut replayer certains résultats au niveau de l'Open d'Australie avec notamment Tsitsipas qui a battu le Suédois Immer donc en 3-7 assez facilement, donc un peu plus tôt dans la journée. Les deux favoris australiens qui peuvent briller devant leur public, c'est Arnaud de Minor et Nick Kyrgios qui ont tous les deux remporté leur match du premier tour, donc respectivement face à Musetti et Brody. Et parmi les autres résultats, on peut donner la victoire de Danny Evans face à David Goffin en 3-7. Et voilà, on suivra un peu tout ce qui arrive au niveau du deuxième tour avec nos Français qui sont engagés, notamment Monfils face au Kazakh Boulbik, Moutet qui jouera donc contre Korda, hein, sachant que Moutet a battu au tour précédent l'autre Français Lucas Pouille, pardon. Et puis Manarino jouera contre le Polonais Urjak. Bondy jouera contre Kachanov, donc il aura donc un sacré adversaire devant lui. Benoît Paire jouera contre Grigor Dimitrov. Et Rinderknecht, on l'a dit, hein, qui a battu Popirine juste dans la journée, qui jouera donc contre Danny Evans. Gasquet qui jouera contre finalement donc le Hollandais Van de Zandvoort. Donc voilà, ce sera un match intéressant pour Richard Gasquet qui n'a pas gagné depuis très longtemps, enfin depuis assez longtemps au niveau d'un grand chelem. Voilà, on va pas s'attarder plus que ça donc sur cette émission de Génération Sport. On va se retrouver donc non pas la semaine prochaine, mais plutôt dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, je le disais, il va y avoir un événement spécial. Ce sont les Inouïs hein, qui auront lieu de 20h à minuit sur les ondes de Radio G et sur toutes les ondes des radios associatives du Maine-et-Loire. Donc, ce sera un événement musical avec des groupes et des chanteurs, chanteuses de la région. Et voilà, vous pourrez suivre ça donc à partir de 20h sur Radio G. Donc nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines du coup, ouais, dans 2 semaines pour une émission La Dalle Angevine avec Amandine Brossi, hein, quand même. On va recevoir quelqu'un qui a participé aux derniers Jeux Olympiques, donc ça va être assez intéressant. Je remercie une dernière fois Rosière Malonga d'avoir été avec moi aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à toi d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de l'EAB. Alors, je crois que ce sera Youri Monrose qui sera là la semaine. Enfin, le mois prochain, pardon. Et quant à nous, on se retrouve donc dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Génération Sport. On se quitte tout de suite avec le générique. Et on se redit donc à dans 2 semaines. Et bon mardi soir sur les ondes de Radio G.